Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes vendredi 16 avril, c'est donc la libre antenne dans le journal des auditeurs. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir. Nous parlerons notamment du Bénin, où un nouvel opposant a été arrêté hier, du verdict dans le procès de Doué-Coué en Côte d'Ivoire, mais aussi de l'offensive rebelle au Tchad, ou encore du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Pour participer, vous exprimez sur le sujet de votre choix, 33 1 55 07 58 00. Mais d'abord, nous ouvrons cette émission avec le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Moi, je voulais un peu revenir sur l'interview accordée à France 24 RFI, d'Edouard Balladur sur le génocide du Rwanda. Donc, Edouard Balladur, il va, on va dire, à l'encontre, en fait, il contredit en quelque sorte le rapport du clerc sur le génocide au Rwanda. Et il est arrogant, très orgueilleux, gonflé. Et dans ses propos, il dit que la France n'a pas à s'excuser sur le génocide au Rwanda. Il ne faudrait pas qu'on attende la repentance de sa part. Et il dit aussi que voilà, le seul pays qui était là pour faire mieux, pour éviter le pire dans ce pays, le Rwanda, en 1994, c'est la France. Donc la Belgique et les États-Unis n'ont pas intérêt ou droit à dire quelque chose. Mais c'est normal que la France soit concernée, le plus concernée.
Bonjour Madame Hartmann. Bonjour les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les RCK. La population de l'Est et de la République démocratique du Congo réclame le départ de la MONUSCO, réclame son départ. Il estime qu'il n'a rien fait par rapport à la protection des civils. Les dégagements de la MONUSCO demeurent dans tous les cas une option pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo.
Bonjour à mes auditeurs de JDA. Je suis en train de déplorer la justice ivoirienne pour le jugement de Amédée Orémi. C'est vraiment dommage que c'est lui seul qui porte la charge des crimes. Et les commanditaires, il faut qu'ils soient arrêtés et être jugés aussi, parce que lui, il est un simple exécutant. Heureusement, que Charles Legoudé et Laurent Gbagbo n'ont pas été jugés en Côte d'Ivoire pour les faits qu'on leur a reprochés, qu'ils ont été acquittés définitivement la fois dernière. Sinon, ils seront vraiment condamnés à tort. Merci à mes auditeurs de JDA. Bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. On commence sans plus tarder cette libre antenne 33 1 55 07 58 00 avec le Bénin. La Sénat a confirmé hier la victoire dès le premier tour de Patrice Talon avec un peu plus de 86% des suffrages et un taux de participation de 50%. Au même moment, quelques heures plus tôt, le professeur de droit constitutionnel Joël Frédéric Aïvo était interpellé par des policiers cagoulés. Il a été conduit à la brigade économique et financière. Une nouvelle arrestation d'opposants au Bénin. Nous en parlons d'abord avec Philippe. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà Stéphanie, bonjour Amjidéa, bonjour tout le monde.
Bonjour mon cher Philippe. Alors, quel regard avez-vous sur cette actualité?
Franchement, moi, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur parce que les Béninois n'ont jamais vécu cette situation que ce monsieur a imposée à ce peuple. Voilà. Et il a été réélu. Il a bien organisé son truc. Déjà, il n'y a jamais eu une élection. Ça, ce n'est pas une élection, ça. Parce qu'on n'a pas vu, on n'a jamais vu au Bénin où quelqu'un comme lui a été réélu à 86%. Tout ça, ce sont des théâtres. Bon, maintenant, je ne sais pas comment lui dirige un pays et le Bénin maintenant fait peur à tout le monde. Tout le monde, tous les opposants, les candidats ont été arrêtés. Il y en a d'autres qui ont fui. C'est pas comme ça on gère un pays. C'est pas son pays. C'est-à-dire, c'est pas son propriété. C'est pas comme ça on dirige une démocratie, non. Il faut que maintenant il s'assoie, il invite tous les opposants et s'assoie et parler.
Est-ce qu'il est vraiment dans cette optique-là? On a entendu hier un Talon s'exprimer, hein. Devant chez lui, avec quelques invités. Il a plutôt menacé d'ailleurs de nouveau les opposants en disant que les troubles, hein, il a accusé hein, l'opposition d'être à l'origine des troubles.
Qui a tiré sur lui? Jusqu'à présent, il n'y a pas l'enquête. Donc, les gens, on parlait des chasseurs, on n'était pas là, moi je ne suis pas maintenant au Bénin. Le Bénin qui était un exemple à tout le monde entier. Hein? Comment on est arrivé? C'est parce que la manière dont il gère le pays, ça n'allait pas. On n'a jamais vu Bénin dans cette situation où, à chaque élection, on doit tuer. On doit tuer des gens. Regarde l'élection. Les gens n'ont pas sorti voter. Il y en a même qui n'ont même pas trouvé même le petit Bénin. On a gardé sur une élection et puis une partie n'ont pas voté et puis on gagne. Et puis même l'opposant même n'a pas fait, on les a pas vus. C'est le président seul qui fait campagne partout. Et puis même, c'est pas normal. Il faut que ce monsieur s'assoie et réfléchisse. Je n'ai rien contre lui. Il travaille, il a suivi ce que Yahi Boni a fait. Si on dit que Talon travaille aujourd'hui, Talon n'a pas travaillé, il n'a pas organisé tous ces chantiers.
Il récolte les fruits peut-être des précédents présidents.
Non, tout à fait.
Merci. Donc,
mais il n'a qu'à faire attention. On ne gère pas un pays comme sa propre société. Non.
Merci.
C'est pas normal. C'est pas bon.
Merci.
Maintenant, qu'est-ce que Aïvou a fait? Aïvou a fait quoi? Il a fait quoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que ceux-là ont de l'argent pour déstabiliser un pays?
Surtout non. Qu'on évoque de terrorisme hein, dans un pays qui ne connaît pas d'attaque terroriste.
Tout le monde est terroriste maintenant. Tout le monde est terroriste. Donc, il faut que ce monsieur s'assoie et réfléchisse qu'après le pouvoir, il y a la vie. On a vu des présidents. Qu'est-ce que le président, l'ancien président, le feu, l'ancien président de Burundi n'a pas fait? Nkurunziza. Et finalement, il est où aujourd'hui? Il y en a plein comme ça. Qu'est-ce que Mugabe n'a pas fait? Donc, Talon n'a qu'à regarder dans ça.
Merci, Philippe. On entend vos inquiétudes, mon cher Philippe. Excusez-moi, on va dépêcher un peu, c'est la libre antenne, hein. Il y a d'autres personnes hein, qui veulent intervenir. Mais merci beaucoup Philippe, on a compris que hein, vous appeliez, hein, vous, un dialogue, voilà, vous appeliez le président, peut-être Patrice Talon, à mettre bas la terre. Merci beaucoup Philippe. On se dirige justement, Philippe était en région parisienne, on se dirige justement au Bénin, à Abomey-Calavi, retrouver Vincent. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour cher journaliste Stéphanie Armand.
Bonjour Vincent, est-ce que vous partagez les inquiétudes de votre compatriote?
Oui, pourquoi pas? Je ne peux pas partager effectivement son inquiétude parce qu'il a tout dit. Il a effectivement tout dit parce que ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est surtout une surprise juste quand on organise les élections présidentielles au Bénin et c'est ce qu'on assiste parce qu'il faut être témoin de tout ce qui se passe pour bien parler. J'étais témoin dans les urnes, comme je vous l'avais dit depuis le lundi et quand j'avais pris la parole. Et comment ça s'est passé dans les urnes, dans les isoloirs, nous tous, on était témoins. Bon, écoutez, ce qui s'est passé hier, vraiment, ça m'a touché. Parce que professeur Joël Frédéric Aïvor, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et le seul crime qu'il a commis, moi je sais, c'est qu'il a demandé d'aller aux élections. Mais aller aux élections, je ne sais pas s'il n'est pas citoyen béninois. Et c'est pourquoi on l'a écarté, pourtant on l'a arrêté. Madame la journaliste, si on continue toujours d'arrêter les opposants, d'incriminer, d'inculper les opposants béninois, est-ce que cela donne une bonne image pour la démocratie béninoise? Moi, je n'en sais pas. Donc, moi, l'élection hier même, surtout la Cour constitutionnelle du professeur Diogbenou et Joseph a finalement confirmé l'élection et aussi la victoire de Patrice Talon. Mais cela ne veut pas signifier qu'on doit arrêter surtout le professeur Diogbenou. Donc, nous voulons surtout la paix. Nous ne voulons. Oui, voilà, professeur Joël Federica Aïvo, les conscients, celui qui connaît la loi du peuple. Donc, si on continue sur tous ces chemins, cela ne veut pas engager surtout, ça va apaiser les tensions politiques. C'est-à-dire, nous voulons surtout la paix, nous voulons surtout le travail, nous voulons surtout la circulation de l'argent, que tout le monde travaille pour avoir de l'argent. Mais ici, vous ne laissez pas l'opportunité pour ces peuples-là qui vous votent pour surtout, qui restent surtout sous le soleil, qui marchent à pied pour à près de 80 km peut-être, plus de 100 km peut-être, pour aller voter pour vous. Si vous ne les laissez pas ces personnes vivre dans les bains, c'est pas ça, veut dire que rien ne va dans le pays. On ne peut pas gérer surtout un pays comme une société. Le Bénin n'est pas Sodeco. Le Bénin n'est pas une société surtout. Donc, il faut laisser le Bénin comme une nation comme les autres. Donc, on ne peut pas gérer un pays comme le Rwanda et laisser, c'est-à-dire arrêter les opposants, tuer les opposants d'abord avant que le pays ne se développe. Nous voulons que le pays va rester comme la France, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Nigeria, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire surtout. Donc, nous ne voulons pas qu'on va chasser surtout les opposants et continuer toujours, c'est-à-dire aller de l'avant. Donc, c'est ce que moi je souhaite à président Patrice Talon, que la paix revienne dans mon pays et que tous les fils et les filles du Bénin parlent de la même langue et aussi parlent de la même, c'est-à-dire travaillent ensemble.
Une interpellation qui vous a choqué, si j'ai bien compris, Vincent, l'interpellation du professeur Joël Aïvo, qui est quand même une personnalité respectée et respectable. Merci beaucoup. Vincent, on rappelle aussi que début mars, Réquia Madougou, ancienne ministre, elle a voulu aussi être candidate à la présidentielle, elle avait été également arrêtée pour financement du terrorisme. Elle est toujours emprisonnée. D'ailleurs, ses avocats craignent un peu pour sa vie. Ils disent qu'elle est à l'isolement. 33 1 55 07 58 00. Dans un instant, on va parler de la Côte d'Ivoire et du procès de Doué Coué. Avant ça, on fait un petit tour au Tchad, retrouver Hosanna. Bonjour Hosanna.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les amis de JDA.
Bonjour Hosanna, vous vouliez revenir sur l'offensive du FACT. C'est une rébellion armée dans le nord du Tchad, plutôt dans le sud de la Libye, qui a lancé une offensive. Le FACT dit avoir pris en main plusieurs garnisons, ce que dément l'armée tchadienne qui dit que tout est sous contrôle. L'armée tchadienne a notamment réagi en bombardant les positions des rebelles. C'est bien ça?
Oui, Stéphanie, je m'inquiète beaucoup pour la situation sécuritaire de mon pays, parce que, comme on vient de le dire, il y a une rébellion qui sévit dans le nord. Et le Tchad a déjà beaucoup vécu dans la guerre, donc on a pris cet état, malgré que le maréchal Déby ne veut pas quitter le pouvoir, avec les 30 ans qu'il a fait à la tête du Tchad. Il a toujours l'envie, il a toujours le besoin de continuer à diriger ce pays. Et comme les auteurs qui m'ont précédé ont souligné le problème de leur pays, c'est presque pareil en Afrique. Les dirigeants qui ont déjà pris le goût de diriger veulent faire surtout du pouvoir leur champ privé. Et cela apporte ou crée toujours des problèmes. Et c'est ça le problème, c'est ça la situation actuelle de mon pays.
Ce que vous dites, est-ce que, Hosanna, si je peux me faire un peu votre parole, ce que vous dites peut-être, c'est que, face aussi à une classe politique verrouillée, finalement, les Tchadiens qui ont envie de changement n'ont plus qu'à prendre les armes?
Oui, au Tchad, Idriss Déby a verrouillé carrément l'espace politique. Il n'a pas laissé le temps à ses adversaires ou à ceux-là qui veulent bien se lancer dans la politique. Briguer la magistrature, il n'y a pas cette opportunité.
Ah.
Peut-être pour trouver une solution, préfère prendre les armes. Sinon, honnêtement, au Tchad, ce n'est pas facile. Même, comme vous le savez, il n'y a pas. Les opposants sont muselés, les opposants sont avec ce qui se passe actuellement avec Yaya Diallo. En de tels cas, à rebeller les gens. Et les gens pensent que rester sur la politique ne va rien apporter. Et donc il préfère peut-être passer par la force, comme David lui-même est arrivé au pouvoir par la force, on ne sait jamais.
Il faut dire qu'au Tchad, alors la ligne se dégrade un peu aux Anas, je m'en excuse, mais il faut dire qu'au Tchad, hein, la rébellion armée était presque une tradition, hein, Idriss Déby est lui-même hein, issu hein, de ces mouvements. Merci beaucoup aux Anas. La France a été intervenue, on s'en souvient, en 2008 et il n'y a pas si longtemps aussi, il y a quelques années, hein, pour bombarder hein, des positions rebelles. Pour l'instant, hein, Paris n'a pas réagi, mais elle utilise hein, quand même les drones. Hein, elle aide l'armée tchadienne en faisant du repérage avec des drones. Merci aux Anas. 33 1 55 07 58 00. Dans un instant, on parlera, on reviendra sur le procès au Burkina Faso qui s'annonce contre Blaise Compaoré et 13 autres co-accusés. On parlera également du nouveau gouvernement en RDC, mais son nom m'échappe, monsieur Wérémy, hein, ancien chef de guerre concernant les massacres hein, qui ont lieu à deux. Wérémy a été condamné à la prison à perpétuité.
Oui, mais moi, lui, ce n'est qu'un exécutant. C'est la France et le président Ouattara. On le sait tous.
Alors, donc, on va aller peut-être à une hiérarchie un peu haut, juste au-dessus. On n'est pas obligé de remonter si haut. Ce que la défense de Wérémy a souligné, hein, que sa hiérarchie supérieure, hein, c'était des anciens rebelles qui sont aujourd'hui intégrés dans l'armée, hein, dont le colonel hein, Loncenifal.
Effectivement, donc, je vous disais que c'est de la comédie. Il faut aller jusqu'au bout. En fait, tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, on sait qui les a tués. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'on se cache, je ne sais pas, mais bon, c'est sûr que les gens paieront. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils paieront. Babou a été blanchi. Donc il y a certainement d'autres qui ont fait des crimes. Il faut qu'ils payent, puisqu'ils ont mis des innocents en prison. Et puis je voulais revenir à mon ami du Bénin qui a dit que tu prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire, mais il faut qu'il prenne l'exemple ailleurs, soit sur le Sénégal, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas un exemple par rapport au président.
Le Sénégal l'est de moins en moins aussi, mon cher camarade, vous voyez. Bon.
Oui, par rapport à la Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est
un peu dramatique parallèle. En ce moment.
Il n'y a rien à dire, quoi, franchement.
Bon. Mais,
en fait, à Diokwe, les gens, c'est-à-dire que l'État ne veut même pas reconnaître les victimes, les gens qui ont été tués par le RSDP. Et ça, c'est dommage. C'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire va retrouver, je veux dire, la liberté.
Pour vous, ce procès n'aura pas fait la lumière hein, sur la vérité.
Il y a eu le procès de Gbagbo, mais pourquoi on l'amène pas à la CPI ? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui le juge ? C'est-à-dire que c'est incompréhensible, quoi.
Si vous rappelez bien, la Côte d'Ivoire s'est retirée, hein. La CPI, oui, elle a dit qu'elle n'enverrait plus personne, d'ailleurs, parce que la CPI a demandé l'extradition de Mme Gbagbo, Simone.
Tout simplement, ça arrange M. Ouattara, parce qu'il sait que si il laisse la Côte d'Ivoire à la CPI, il y aura un jour où il va retourner là-bas. Donc, vous voyez, c'est pas juste. Avec ses complices Chirac et autres, comment il s'appelle, Sarkozy, qui ont monopolisé la Côte d'Ivoire, c'est comme une ventouse. Mais ça, je vais vous dire, d'ici quelques années, ça va changer, quelles que soient les circonstances. Parce qu'on ne peut plus, la jeunesse africaine ne veut plus de ce genre de personnes. On a envie de vivre en liberté comme en France, comme partout dans le monde.
Merci, voilà. Camara.
Je vous remercie beaucoup et bon week-end.
Bon week-end, Camara, merci beaucoup. Je revenais sur le procès de Doué. D'ailleurs, Chris nous envoie ce message. L'échec de la justice française et de la justice ivoirienne sont au menu cette semaine. Alors, je pense que Chris a fait le procès hein, du bombardement de la base militaire française de Boaké n'a pas permis de rétablir la vérité sur les commanditaires de ce crime. Et le procès d'Amadé Wérémy n'a pas non plus permis de rétablir la vérité sur les commanditaires de la justice. Hein. Lente et difficile crise depuis les États-Unis. Aboubakari, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Aboubakari. Vous voulez revenir sur le sujet d'hier. Hier dans le JDA, nous parlions du Burkina Faso et de cette actualité. Hein. La voie est désormais ouverte à la tenue d'un procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et parmi les accusés, Blaise Compaoré. Alors, si je me souviens bien, votre propos, c'était s'il faut juger Blaise Compaoré, il faut juger Thomas Sankara.
Exactement. C'est
mais alors, sauf qu'Abou Bakari, je vous rappelle qu'on ne juge pas les morts.
Il n'y a pas compris.
En justice, on ne juge pas les morts.
Ah ben justement, il a les complices qui sont encore là. Il a les complices qui vivent encore.
Qu'est-ce que vous dites quoi votre propos? Vous vouliez accuser Thomas Sankara de quoi?
Justement, avant de réagir, j'aimerais faire juste une petite rectification. Et la Côte d'Ivoire ne s'est pas retirée de la CPI. mais elle a décidé de ne plus envoyer les Ivoiriens parce qu'elle pense qu'elle a une justice indépendante maintenant. Au moins, on envoyait Gbagbo Laurent, elle pensait que la justice était défaillante un peu. Merci. Maintenant, et pour revenir, et qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, mais parce que si vous avez vu, j'ai dit ça hier, j'ai entendu beaucoup de choses où j'étais vraiment choqué. Il y a des gens qui disent que ouais, Thomas Sankara est un modèle, la jeunesse africaine doit prendre l'exemple sur lui, c'est un panafricain. Mais non, moi je dis non.
C'est pas votre avis, mais c'est indéniable. C'est une figure panafricaine. On voit son visage s'affiche sur de nombreux t-shirts. C'est à l'image du Tché, il est devenu un héros révolutionnaire.
Voilà, justement, vous savez, nous les Africains, tout le temps, c'est quand quelqu'un meurt, on met ses louanges devant. Sinon, quand il était là, il a fait du tort à des personnes aussi. Hein. Thomas Sankara n'est pas un exemple pour moi, un exemple d'ailleurs. Prenez l'exemple de Mandela, quelqu'un qui vit en pouvoir en tuant d'autres personnes, qui a le sang sur sa main. Thomas Sankara aussi a fait des familles. Il y a des familles qui ont perdu et des personnes qui sont jusqu'à présent, qui sont en Burkina, qui pleurent. Les membres des familles qui ont été tués par Thomas Sankara, oui. Donc, s'il faut juger Blaise Compaoré, moi je suis d'accord, il faut le juger parce que c'est un criminel, Blaise Compaoré. Il a tué Thomas Sankara. Mais j'aimerais que la justice aussi se penche un peu si les alcooliques de Thomas Sankara qui sont encore vivants. Thomas Sankara, il est mort, on n'en parle plus, mais il faut en parler. Ouais, lui, il a mort.
Ce que vous dites, Abou Bakari, finalement, c'est que peut-être que le régime de Thomas Sankara s'est rendu aussi coupable de crimes ou peut-être de dérives autoritaires. On entend bien. Merci beaucoup, Abou Bakari, de nous avoir participé à cette émission. 33 1 55 07 58 00. Il reste quelques minutes, n'hésitez pas, les lignes sont libres. Appelez-nous, venez nous donner votre avis sur l'actualité de votre choix. 33 1 55 07 58 00. Tanguy, bonjour. Bonjour Tanguy.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les auditeurs. Je vais être bref, il ne me reste pas beaucoup de temps.
Oh si, si, donc, allez-y, il reste 4 minutes et...
Bon, c'est fini, ça va. Donc, je parle de la situation en RDC à l'heure actuelle. Il y a eu un nouveau gouvernement qui vient de sortir, dont nous avons des députés en RDC qui font la honte de toute une nation.
Ils ont demandé des sous, apparemment, c'est ça?
Ben voilà, ils veulent... En fait,
ils veulent un dédommagement pour ne pas avoir rallié le gouvernement, ne pas avoir été nommé donc, ministre.
Mais c'est vraiment une honte d'en parler, même jusqu'à la radio. Je tenais quand même à le dire et j'ai oublié de stipuler, je souhaite toujours un bon rétablissement à mon président national Vital Kamerhe qui se porte bien. Merci. Et c'est une honte nationale, sachant que le pays vit des moments très difficiles au nord Kivu avec une rébellion qui dit pas son nom et puis le peuple souffre, les magasins sont pas ouverts de Goma jusqu'à Butembo, passant par Bunia. Donc, par rapport, en fait, à la MONUSCO, qui ont fait plus de 23 ans chez nous en RDC, mais qui n'ont pas réussi, en fait, à mettre la sécurité dans ce
Vous avez suivi, Tanguy, hier, la déclaration de Bitoun Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU au Congo, qui a reconnu les manquements de la MONUSCO. Hein.
Ben, c'est normal, hein, ben, quand on vient puiser sur les richesses de la RDC, et bon... À un moment donné, le peuple ne pouvait que se révolter. Donc, je condamne le silence qui vient de Kinshasa. Mais qu'on dirait que ces gens-là, ils pensent qu'à manger et à boire. Comme le président, bon, ce week-end, lui-même n'a pas respecté le couvre-feu. Et donc, il va dans des fêtes après 21h, au lieu que tout le peuple congolais est censé être chez eux. Et puis, bon, il boit, il mange. Ben, bon, voilà, on se pose des fois des questions si vraiment... Et c'est souci du peuple congolais.
Vous soulignez...
Un gros point d'interrogation. Et puis ça n'engage que moi. Et puis les gens ne sont pas contents dans ces dires-là. Ben, tant pis pour eux. Mais c'est une triste réalité. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les images parlent d'elles-mêmes.
Merci Tanguy. On vous soulignait quelque chose d'important. Peut-être en RDC, en effet, c'est peut-être parfois la rupture entre la capitale, Kinshasa, et le reste du pays, notamment à l'Est. Diallo, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Diallo, je me suis précipité sur la ligne pour vous prendre. Vous vouliez parler de la libération d'un journaliste au Mali. Vous avez une minute, c'est à vous.
Oui, je demande pourquoi jusqu'à présent l'autorité malienne garde cet homme-là, Rachbach, alors qu'il est un éclaireur, c'est un journaliste qui nous a émerveillés, qui nous a donné pas mal d'informations sur le pays. Mais jusqu'à présent, Tout le monde demande sa libération.
Moi, alors d'ailleurs, pour le contexte, Diallo, parce qu'il y en a un peu de temps, je vais faire vite. Razbat et d'autres personnalités ont été interpellés, accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Finalement, les charges ont été pas reprises, hein, ils ont été blanchis, mais le procureur, et ils n'ont toujours pas été libérés.
Mais pourquoi ? Pourquoi jusqu'à présent ? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut ?
Ils attendent que le procureur fasse appel, si j'ai bien compris.
Oui, mais le procureur, mais Nations Unies même a demandé sa libération. Le Mali est sous caution jusqu'à présent. Pourquoi Nations Unies ne mettent pas de pression jusqu'à présent à ce gouvernement ? Alors, je pense que c'est innocent comme les autres. On garde les innocents en prison pour rien. Ah, ils sont là pour aider le Mali. S'ils sont là pour aider le Mali, là, c'est une manière d'aider un pays comme ça.
Vous appelez à plus de pression internationale. On l'a vu tout au long de cette émission, Diallo, les atteintes aux droits humains sont nombreux, ne font pas toujours réagir, malheureusement. Participation, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages sur la page Facebook, inscrivez tous et à toutes, surtout, mesdames, n'hésitez pas, venez aussi donner votre avis sur l'actualité, c'est important. 33 7 66 19 77 69, on se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Bon week-end, à lundi.